Alors nous nous retrouvons pour une deuxième session de cet entretien avec Pierre Avril, dont nous voudrions qu'elle porte sur la période de 1965-1974, pour cadrer un petit peu large. Et je voudrais commencer par une question sur la manière dont vous interprétez cette période. Et j'ai une question plus spécifique sur votre attitude vis-à-vis de la gauche française à ce moment-là, et comment vous interprétez l'évolution de la gauche française. Alors, il y a la question, évidemment, de votre réaction à l'adhésion de Mendès France au PSU. Et il y a une autre question qui m'a été inspirée par une relecture de Un président, pourquoi faire. J'ai été frappé, en relisant, de la veine critique, si je puis dire, qu'on détecte dans cet essai, contre la gauche française, en tout cas celle qui a gouverné la 4e, la gauche de gouvernement des années 46-58. Vous désapprouvez d'un côté le côté systématiquement désengagé de la SFIO de Guy Mollet, et puis de l'autre le réformisme gestionnaire du MRP, qui ne réussit qu'à faire une chose, c'est à faire chuter Mendès France, dites-vous, tandis que de son côté... à propos des socialistes de 1965, vous parlez, je vous cite, de repli et de sénescence. Alors, vous pensez cela au moment d'un président pourquoi faire. Question annexe ou incidente, qu'est-ce que vous pensez au moment d'Épinay et quelle interprétation vous avez de la manière dont François Mitterrand restructure le socialisme. Question très générale, vous pouvez puiser dans, cette, dans ce panier.
Oui. Bon, enfin... Il y avait un côté pratique. Le côté pratique, c'était le constat suivant, ils sont incapables de faire passer tout ce personnel de la 4e République est absolument incapable de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Il n'y a qu'un seul homme qui a compris, c'était Mitterrand. Ça, c'est évident. François Mitterrand avait compris très tôt. Il avait compris deux choses. Il avait compris que le scrutin majoritaire à deux tours impliquait nécessairement l'alliance avec le Parti communiste pour le deuxième tour. Et donc, a fortiori, si je puis dire, sur le plan national, l'union de la gauche était la condition sine qua non d'un succès. Autrement, ce n'était pas la peine. Bon, il a soutenu de faire comme ça, gentiment, mais pas sans y croire, et il ne le cachait pas d'ailleurs. Et donc, il apparaissait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait remettre en mouvement la machine du côté gauche, c'était François Mitterrand parce qu'il avait compris. C'était vraiment le seul qui, à gauche, m'avait donné l'impression d'avoir pigé, sans trop le dire, comme d'habitude d'ailleurs, mais d'ajuster sa stratégie avec les nouvelles règles du jeu qui s'imposait. Ça, c'est l'aspect pratique. Pour le reste, aucune illusion. C'était sans illusion, mais c'était la seule chose qu'il fallait faire pour remettre en mouvement le système, qu'il n'y ait pas cette dichotomie entre une droite qui gouvernait tranquillement et puis une gauche complètement impuissante. Mais que réintroduire un peu de compétition dans le système, dans son intérêt, le croyait-on, tout moins.
Alors peut-être on pourrait grouper les questions de Carlos et de moi sur mai 68.
J'avais juste une petite question là, dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous en avez un peu voulu à Mendès, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire cette espèce d'attitude, de retrait sur l'Aventin, etc. Est-ce que ça vous paraissait pleinement légitime parce que voilà, il n'était pas d'accord avec les institutions et c'était tout à fait respectable, ou est-ce que moi, une chose Mitterrand a eu le rôle qu'il a eu dans la gauche française, c'est peut-être parce que Mendès n'a pas voulu y aller, enfin je simplifie un peu rapidement, mais et si plus tard Jospin a eu le rôle important pendant une autre période où les socialistes étaient au pouvoir, c'est aussi parce que Delors n'a pas voulu y aller. Il y a quand même pas mal de gens à gauche qui ne veulent pas y aller et qui donnent après des résultats peut-être moins... plus improbable que ce qui aurait eu lieu sinon. Donc voilà, est-ce que vous l'aviez voulu et qu'est-ce que vous en pensiez?
Voulu, non, j'étais navré. J'étais navré si je peux faire un reproche ou exprimer un regret, C'est non pas qu'il est, avec son caractère, c'était évident qu'il avait, il ne reviendrait pas là-dessus. Mais, ce que j'ai regretté, c'est qu'il se laisse entraîner au PSU dans ces histoires qui étaient ridicules. Et donc, quitte à, non, mais je veux dire, quitte à aller à se retirer sur l'Aventin, il faut vraiment se retirer sur l'Aventin et ne pas perdre son temps parce qu'il cédait à des gens qui le sollicitaient, qui lui disaient, enfin, c'était un chantage permanent. Bon, je laisse de côté le rôle de l'Express. Le chantage permanent consistait à vous nous avez amené à la politique, vous ne pouvez pas nous abandonner, etc. Et il cédait à chaque fois, il s'est laissé entraîner. Donc dans les deux, bah, puis il avait des amis qui des gens qui étaient quand même du point de vue du personnel politique qui était de second rang et qui étaient contents de pouvoir avoir cette étiquette, ce nom parce que ça donnait au PSU et à leur entreprise un éclat qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Alors c'est un regret. J'ai pas été surpris, le connaissant, que, compte tenu des circonstances de mai 58, il n'y avait pas de possibilité de ralliement. Et d'ailleurs, ça aurait paru absolument absurde. Enfin, simplement, ce que je regrettais, c'est qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de.
C'est logique.
Je veux dire, faire comme Strauss-Kahn, aller au Fonds monétaire international. Il était au Fonds monétaire international, il a démissionné, il aurait dû y rester.
Et dans cette perspective, le ticket de Fermandès en 69,
ça c'était consterné. J'étais consterné.
Vous le lui avez déconseillé,
non,
par exemple
pas, Non, je le voyais très peu à ce moment-là, parce que je ne savais plus. C'était un. Une entreprise qui était tellement dérisoire que c'était cruel d'en parler. Enfin.
Je suppose que Charletti, c'est pas un moment heureux pour ceux qui avaient aimé Mendès dans leur jeunesse.
Non, là aussi, il s'est laissé entraîner par des gens qui lui ont dit, avec son neveu, etc., qu'il allait se passer des choses affreuses, enfin, qu'il fallait qu'il soit là pour les. Bon, c'était une façon de l'attirer dans un. Pas un guet-apens, mais une pantalonnade.
Et votre regard, vous-même, sur les événements de mai 68, puisque Denis Barranger parle de ce Charletti, comment est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes dit on risque vraiment d'arriver à une désintégration des institutions à un moment, ou est-ce que, ou pas? Enfin, quel a été votre regard là-dessus?
Je l'ai vu de ma fenêtre de la rue Gay-Lussac.
Oui, alors, en plus, vous étiez bien placé. Est-ce que vous les avez pris au sérieux?
Non,
jamais.
Non, ce que j'ai pris au sérieux, c'est la faiblesse, enfin l'impuissance de l'État.
Oui, oui.
C'est l'impuissance de l'État qui est quelque chose d'assez stupéfiant à ce moment-là. À la fois l'impuissance en laissant le mouvement monter et la maladresse des réactions lorsqu'ils sont intervenus. Tout le quartier était évidemment pour les étudiants, même s'ils brûlaient les voitures, les gens. Même, je vous rappelle, mon boucher trouvait presque normal qu'on ait brûlé des voitures. Enfin, c'est-à-dire le climat. Les gens étaient beaucoup moins traumatisés que ceux qui regardaient la télévision, qui voyaient le spectacle. Parce que il y avait le traumatisme, c'était l'intervention de la police. Parce que le spectacle de la violence, c'est une violence d'ailleurs assez, tout le monde fait assez modérée, mais qui est quand même assez. Vous vous révulsassez quand vous voyez taper sur des gens, ça vous met mal à l'aise. Et donc tout le quartier, en plus, était enfumé par les gaz lacrymogènes, et tout le quartier était donc sur les. Favorable aux étudiants, mais tout ça qu'on a bien connu. Alors pour le reste, c'était la manifestation, la grande manifestation du 13 mai. Je me rappelle, j'avais été voir ça, et j'avais rencontré un journaliste qui la Dépêche du Midi, qui était Joseph Barsalou, qui était un vieux journaliste très radical, très, très avisé. Et on a regardé ça et on s'est dit, bon, c'est fini.
C'est fini pour la cinquième.
Sinon, c'est fini pour le mouvement.
C'est
pour
le, oui, c'est le 13 mai.
30 mai peut-être. Alors.
Non,
la manifestation, oui, de la manifestation.
Des Champs-Élysées.
Non, c'était il y a 10 ans, ça suffit. La manifestation du 13 mai, la grande manifestation qui s'était déroulée.
Dès ce moment-là, vous savez que c'est.
Ah ben oui, c'était évident, oui.
C'était définitivement
avec
pas sérieux.
Che Guevara, c'est bon, c'est du bon, ben ça y est, c'était bon, les slogans qui vous étaient, c'était tellement ridicule.
Oui, oui, mais alors, lorsqu'après, il y a une espèce de liquéfaction complète de l'appareil d'État.
Bon,
alors, et alors, par exemple, spécialement au moment où De Gaulle disparaît, vous vivez ça comment, vous
j'ai été à la conférence de presse de Mitterrand à la l'intercontinentale, ben c'était le 28, le 29, c'était le 29,
je crois.
Oui, c'était la stupéfaction, disons, mais ben, ça n'avait pas l'air très sérieux.
Ah, ouais.
Je veux dire, ça avait l'air d'une improvisation, du bricolage. Pour autant, je me souviens de l'intercontinentale, et cette conférence de presse, Mitterrand disant que je serai candidat, et puis le ministre François dans le gouvernement, enfin bon, ça paraissait quelque chose de pas très crédible.
La disparition de Gaulle elle-même, parce que
ça a duré très peu de temps.
Le jour, comment vous avez
non, mais je veux dire que quand les gens qui le racontent maintenant, ils savaient la disparition de De Gaulle, alors que les gens de l'opinion ne le savaient pas. Mmh. On a appris la disparition presque au moment où il allait revenir.
Il y a une manifestation étudiante, je ne sais plus, ça doit être le 29, me semble-t-il, où les étudiants disent De Gaulle adieu, De Gaulle adieu, quelque chose comme ça. Et où ils se réjouissent et où ils se disent que ça y est.
Ça a duré finalement très peu de temps. Ça a duré très peu de temps, puisque ça devait être la veille, c'était à la bourse, vous avez failli mettre le feu à la bourse. Ça a duré très très peu de temps, et à vrai dire, l'idée, enfin, voyant les protagonistes, on ne n'imaginait pas qu'il puisse se passer quelque chose de sérieux. Voilà, c'était ça. Et on savait très bien que les communistes n'en voulaient absolument pas, bon, ça c'était évident, donc si les communistes ne marchent pas, c'était pas les trotskistes, les maoïstes, et puis même Mitterrand, etc. C'était rien.
Je veux dire, donc le vide ne vous a pas fait peur, le vide institutionnel ne vous a pas fait peur.
Je pense que beaucoup moins qu'aux ministres quand ils sont sûrs que De Gaulle était parti. Ouais. Parce que c'était leur. Je veux dire, c'était le sol qui se dérobait sous leurs pieds. Mais pour quelqu'un qui était un spectateur. Le départ de De Gaulle, ça a intrigué, ça a étonné. Qu'est-ce qui mijote ?
Qu'est-ce qui mijote, oui.
Qu'est-ce qui prépare ?
Mais enfin, il y a aussi quand même le fait que juste avant, les accords, l'échec les accords de Grenelle, justement, ont échoué et que donc on est dans l'impasse, apparemment.
Oui, c'était ennuyeux. C'était surtout ennuyeux pour les gens qui avaient des voitures, parce qu'il n'y avait pas l'essence. Mais je veux dire que. C'est le souvenir que j'en ai conservé. Bon, je ne vois pas.
J'ai une vision très dédramatisée, finalement, des événements, quoi, dès ce moment-là.
Et quelle opinion aviez-vous des leaders, Cohn-Bendit, etc. C'était des rigolos, donc.
Écoutez, quand il y avait les charges, la police, c'était une des journées, une des nuits, la rue Gay-Lussac. Puis les étudiants montaient dans les maisons. Et il y avait plein d'étudiants qui étaient là. Et il y avait un autre qui dit, mais vous savez, les jeunes ouvriers vont venir de Belleville, vont descendre de Belleville nous rejoindre. C'était ça. Bon,
c'est de l'opérette.
Non, c'était... Bon, quand on lit l'éducation sentimentale, bon, ça a souvent été dit, mais c'est vrai, c'est vraiment le sentiment d'une. C'était touchant et ridicule, en fait.
J'avais lu dans un volume paru il y a déjà pas mal de temps sur Mendès, je crois, quelqu'un qui vous citait, alors ça contraste peut-être un peu avec ce que vous dites maintenant, sur le fait qu'à un moment, peut-être au tout début de la crise, vous êtes rappelé une parole de Mendès disant. Finalement, il avait quand même peut-être raison que la cinquième s'écroulerait dans un.
Il y a eu un instant.
D'accord.
Mais il y a eu un instant parce que c'est, Mais je vous dis, c'était, je crois bien me souvenir, que c'était avant cette manifestation du 13 mai, et avant qu'on voit l'état des forces. Enfin, il y a eu un moment où, en tout cas, il y avait cette montée inattendue de violence. Je me disais, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il avait dit que ça finirait mal. Enfin, bref, ça prend une tournure telle que ça a l'air de, que ça semble justifier cette prédiction. Alors, je ne peux pas dire à quel moment, mais c'était un doute en disant, et s'il avait raison.
Pour le dire autrement, dans l'histoire constitutionnelle de la Ve République, qu'est-ce que ça signifie l'année 1968 ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Est-ce que c'est un moment d'inflexion ? Ou est-ce qu'au fond, pour différentes raisons, ça n'en est pas un ?
Je crois que c'est une liquidation. C'est la fin, c'est la fin de l'ère du général. Bon, finalement, il n'a survécu que jusqu'au mois d'avril suivant.
Et c'est ça qui compte, somme toute. C'est-à-dire, au fond, on pourrait dire, il y a 68, et par exemple, après, parce qu'il y a eu 68, il y a le 16 juillet 1971, mais vous pourrez dire, c'est toujours la même chose, c'est parce que De Gaulle n'est plus là que le Conseil constitutionnel peut rééquilibrer les choses. On peut dire aussi, il y a 1968, et après, il y a 1974 et le réformisme giscardien. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus profond que le seul départ de De Gaulle.
Donc, ce que je dirais, parce que si vous voulez, pour me citer, je dirais que c'était la fin du Principat. C'est la fin du Principat, c'est-à-dire qu'on entre, on va entrer dans des eaux normales, enfin, relativement normales. C'est que ce genre de domination, enfin, bon, charismatique, il faut le caser à ce moment-là, ou jamais, cette tentative désespérée de retrouver le contact, le dialogue avec le peuple et l'adhésion populaire, qui s'est dérobée à ce moment-là, c'est vraiment la fin du Principat. Et à ce moment-là, la cinquième redevient un régime comme les autres.
Mais c'est vraiment l'opinion que vous avez à ce moment-là, parce que quand même la dissolution et ses résultats en termes de sièges à l'Assemblée, le changement de gouvernement...
Je dis 68 à la lecture de 69. Du mois d'avril 69.
D'accord.
On ne peut pas dire que représente 68 pour vous. À l'époque, c'était quelque chose de beaucoup plus confus.
Bien sûr. Oui.
Vous voyez, ce qui était évident, c'était la réaction.
Oui.
Les élections, c'est l'Assemblée introuvable, etc. C'est la réaction de la province terrifiée de voir le machin.
C'est juin 48.
C'était tellement classique que ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas une surprise.
Mais le changement de gouvernement, par exemple, la retraite forcée de Pompidou, c'est quand même la continuation du Principat, ça. Toute provisoire,
oui,
sans doute,
je vous dis, le Principat, il se termine, il agonise. Puisque le référendum que De Gaulle voulait faire à ce moment-là, il n'a pas pu le faire, donc c'est un pointillé. Bon, il le fait finalement, c'est déjà le processus...
C'est le commencement de la fin.
Le processus de décomposition qui est engagé.
Est-ce qu'on pourrait dire la chose suivante ? 58-68, c'est le Principat, et ça veut dire notamment que la vie sociale... les problèmes de société sont un peu sous les teignoirs, ne sont pas abordés en tant que tels, parce que le seul médiateur de la volonté générale, c'est De Gaulle. Et donc on est dans une période, je dirais pas nécessairement d'exception permanente, mais du moins d'extrême médiatisation de la représentation de la volonté générale par De Gaulle. Après 68, 68 signifie, à travers quelque chose qui est peut-être anecdotique ou pas décisif, qui est mai 68, le retour de la société sur le devant de la scène, ce qui veut dire aussi le retour de la société sur le devant de la scène constitutionnelle, et le fait que la société réimpose à nouveau son existence et ses problèmes à la Constitution et à la vie institutionnelle.
Je dirais qu'il y a une sorte de congruence entre la rigidité de qui était celle de la société et la rigidité des institutions. Qui ont fait effectivement que ça ne bouge pas. Encore que, il faut penser à la loi Neuwirth. Je pense toujours à la loi Neuwirth. Il y avait les signes annonciateurs étaient déjà présents. Donc Je pense qu'il n'y a pas, il n'y avait pas une nécessité de 68. Car bon, mais il est certain que la rigidité institutionnelle répondait, était en résonance avec la rigidité de la vie sociale, et que c'était très difficile de voir les choses bouger d'un côté comme de l'autre. Et bon, la suite a montré qu'il y avait ce déphasage, avec un rattrapage du côté de la société, en gardant une certaine rigidité institutionnelle.
Peut-être pour nuancer cela sur la question de Denis, j'ai l'impression que 68 confirme quand même que la Ve République peut ne pas être renversée au moindre coup de vent. C'est quand même au moins ça l'acquis de la crise. C'est que le régime a tenu dans ces circonstances un peu troubles. Donc de Gaulle peut terminer son principat et ça peut déboucher sur autre chose. Mais sur l'histoire de la société, pas besoin de rappeler la crise des mineurs de 63 ou 64. Enfin, je pense que là, le retour vers la question sociale, après 62, même si on savait que c'était peut-être précaire, mais à partir de 62, je crois qu'on, par petites touches, elle revient tout de même.
Elle est toujours présente, la question sociale. Ouais. Connaissez-vous une époque où,
Peut-être dans l'idée de Denis, la phase exceptionnelle de 58-62.
Je ne crois pas. À propos, parce que j'en viens sur la résistance du régime. Non, je ne crois pas. La Troisième République, le 6 février 1934, c'était pas mal non plus.
Elle a connu bien pire.
Oui, c'était bien pire. La quatrième, avec les grèves insurrectionnelles. Mais la différence, moi, j'allais dire quelque chose de brutal et de cynique, c'est qu'on tirait. C'est tout. Mais là, c'était les fils des bourgeons qui n'avaient pas dessus. C'est tout. Je pense que si j'avais à résumer de manière un peu cynique les choses, je dirais ça.
Mais est-ce que on ressent, il me semble qu'en vous écoutant, il y a cette impression que vous aviez, que vous ne deviez donc pas être seul à avoir, d'une sorte de décalage complet entre l'institutionnel dont on nous avait vanté la stabilité, la force retrouvée, etc., et des événements qui finalement étaient extrêmement banals, puisque les émeutes étudiantes, elles ont commencé en 67 aux États-Unis. On a eu au mois de février les émeutes en Allemagne à l'occasion de la visite du Shah, qui avait été autrement sérieuse, puisque là on a tiré quand même, autant que je me souvienne. Et puis il y a eu les événements de Louvain en Belgique dans le printemps suivant, juste avant le mois de mai, et finalement, c'est en France que ça a été le plus folklorique, si on peut dire, et néanmoins, c'est là que ça a laissé un souvenir presque paradigmique comme événement révolutionnaire. Est-ce que ce sentiment était présent à votre esprit ou...
On cite toujours l'éditorial de Vincent-Pontet, La France s'ennuie. Il est probable que cette stabilité était pesante. Il est probable que on n'avait pas l'habitude. Offert une résonance beaucoup plus grande à des événements en soi qui étaient relativement mineurs, c'est certain. Mais ça, j'ai pas d'hypothèse sur le sujet. Je pense en effet que c'était le contraste entre cette... Mais c'était quand même un règne qui... On l'a connu chez Mitterrand qui était plus long, mais c'était inhabituel. C'était inhabituel, et peut-être que s'il y avait une certaine lassitude de voir toujours les mêmes têtes, et toujours le même président. Qu'est-ce qui chantait? C'était Jacques Dutronc, je crois, et toujours le même président. Oui. C'était pratiquement à cette époque.
C'est un peu un paradoxe français. Soit le régime est instable et les Français sont mécontents et cèdent à l'antiparlementarisme, soit le régime est stable, et on déplore l'immobilisme.
Je pense, mais enfin, c'est assez naturel le fait de ne pas être content.
Avant de terminer sur cette session, je voudrais vous... peut-être ouvrir une discussion sur 1974. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez du réformisme giscardien par rapport à la Constitution? Est-ce que là aussi c'était une véritable scansion de l'histoire constitutionnelle, ou est-ce que la vraie scansion est un petit peu avant ou un petit peu après?
Ah, je pense, ça je crois que c'est en effet un des moments importants, oui. Je pense que finalement Pompidou c'était la continuation. Les années 69 à 74, c'était à peu près les mêmes, enfin, avec bon, une vague libéralisation à laquelle Chaban s'était attaqué, mais qui n'a pas pu conduire jusqu'où il voulait la mener. Et par conséquent, c'était une sorte de transition grisâtre entre la période gaulliste et puis la gaullienne et la période qui allait suivre. Avec Giscard, c'était vraiment le sentiment qu'il y avait vraiment une différence qui était dans le personnel politique. C'était aussi la perte du pouvoir par les gaullistes. C'était quand même très très, c'était là le grand événement aussi, ça. Et donc c'était la première, j'allais dire la première alternance en quelque sorte. C'était perçu comme ça. Et d'ailleurs Giscard avait bien insisté là-dessus. Et eux, Poniatowski, ses entourages. Moi, je sais que j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt quand j'étais encore journaliste là. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Mitterrand était le seul à gauche à avoir compris, il est certain que immédiatement on a vu Giscard mettre en place une stratégie qui était tout à fait exactement adaptée au fonctionnement du régime, à la logique du régime. Et notamment sa manière de rester dans la majorité, d'être fidèle au général de Gaulle presque jusqu'au bout. Et tout en marquant sa différence pour avoir le moment venu apparaître comme celui qui offrait autre chose que la continuation avec les mêmes, mais tout en jouant la macro-politique, les grands ensembles. Tout ça était assez fascinant. Je dois dire que j'ai suivi toutes les conférences, les réunions des républicains indépendants, les clubs perspectives et alliés. J'avais suivi ça avec beaucoup d'intérêt parce que vraiment, j'avais l'impression d'être celui qui, en quelque sorte, dont le comportement éclaire la logique du régime. Celui-là a compris comment ça fonctionnait, lui va gagner, c'est certain.
Entre la constitution de Gaulle et la constitution de Pompidou, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, c'est ça que vous dites au fond ?
Je ne crois pas. Enfin, c'est vraiment. Mais Pompidou était quand même cramponné. Il était cramponné. Surtout les. Enfin, c'était. J'allais dire si on doit dans son bilan, à supposer que ce soit actif. Dans son bilan, c'est celui qui a maintenu. Alors que c'était pas évident du tout au printemps 69.
Il n'a pas fait de référendum, pourtant. Il aurait pu en faire un sur le quinquennat.
Il avait compris que depuis qu'il y avait l'élection au suffrage universel, il n'y avait plus de référendum.
Enfin, suite 60.
C'était contradictoire.
Formellement, c'est peut-être toujours la même constitution, mais l'âme de la constitution gaullienne est morte quand même déjà avec Pompidou, non ?
Quelle était l'âme ?
Ben justement,
est-ce que c'était l'esprit du général ?
Non, cette logique plébiscitaire.
Une âme objective. Le principat était comme ça a été le levain en quelque sorte qui a permis de sortir. Mais ensuite, bon, il restait les institutions.
Et la preuve peut-être que les choses sont.
Alors l'âme était partie, si vous
voulez. Je voulais dire par là la logique plébiscitaire gaullienne, quoi.
Mais elle avait cessé de jouer. Il ne faut quand même pas oublier que le dernier référendum, c'était en 62. Il y a eu trois référendums. Il y a eu 58, 61, 62. Deux référendums en 62. Et puis plus rien jusqu'en 69. Pourquoi ? Parce que l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était ce mandat populaire qu'il recherchait. Et à quoi bon consulter le peuple, puisqu'on a reçu du peuple un mandat ? Ça ne peut se faire que s'il y avait, précisément comme en 68, une rupture, une déchirure dans la confiance populaire. À ce moment-là, il fallait retrouver. Mais il aurait mieux valu qu'il démissionnât et qu'il se représentât. Car aux élections, ça ne se passe pas de la même manière, parce qu'il y a les concurrents, et du même coup, vous avez vos électeurs qui ont peur et qui reviennent vers vous. Là, il n'y avait pas de concurrent, il y avait Pompidou qui était derrière. Bon, le référendum ne coûtait rien. Enfin, c'était sans risque. Il n'y avait pas de décision, à part le départ du général. Il n'y avait pas des gens qui se mettaient en place. Simplement, on faisait place nette pour Pompidou qui attendait, et les autres pour qui espéraient revenir.
On pourrait avoir l'impression, à quelques micro-détails, je dirais, de l'histoire, j'aime pas le mot d'histoire secrète, mais de l'histoire un peu plus anecdotique de la période Pompidou, que se met en place un système de freins et de contrepoids à l'intérieur même du monde gaulliste. Je pense à l'affaire Markovitch et au mauvais rapport entre Capitan et Pompidou. Je pense à quelque chose que vous citez d'ailleurs dans les conventions de la Constitution, qui est Palevski disant au téléphone à un de ses interlocuteurs « on va montrer à Pompidou que c'est plus de Gaulle et que maintenant il ne pourra pas faire ce qu'a fait de Gaulle ». On a le sentiment que justement le principat n'est plus possible parce que le prince n'est plus là et que celui qui lui a succédé n'a tout de même pas les épaules assez larges pour porter l'uniforme du général. Et ça a des implications constitutionnelles parce que, j'irais, dans une certaine mesure, on pourrait faire une interprétation qui dirait ça prépare la libéralisation giscardienne parce que ça montre que la totale rigidification du système par la présence de Gaulle n'est possible qu'à cause de la présence de Gaulle et que Pompidou ne peut pas la maintenir.
Personne ne pouvait la maintenir.
Non, personne.
Évidemment. Mais c'est presque un terme métaphysique qu'il faut en parler. C'est que la légitimité de Gaulle préexistait.
C'est ça.
Oui. La légitimité, il le disait lui-même.
Itinérante.
Sa légitimité, elle préexistait aux institutions, elle préexistait à la ratification populaire. Son mandat, bon, bien sûr, il dépendait de la confiance populaire, mais ce qu'il était antérieur et au-delà du même coup, lorsqu'il... On se retrouve avec des institutions qui valent ce qu'elles valent, mais qui ne sont plus baignées par cette espèce d'aura.
Oui, qui finalement ne sont pas tellement originales. Oui. C'est les institutions de Weimar, oui. Revues et corrigées.
C'est la Troisième République revue par Weimar,
voilà.
À peu près. C'est l'avant 16 mai.
C'est l'avant 16 mai. Oui.
Pour aimer à MacMahon, moi j'ai souvent pensé à un parallèle entre MacMahon et De Gaulle, quand MacMahon dit qu'il est responsable devant la France.
Oui, oui.
Sauf que De Gaulle dit aussi qu'il est la France, ce que MacMahon n'aurait pas osé dire.
Il y avait le comte de Chambord.
Oui, mais précisément.
Mais alors, ça veut dire que...
Le fait qu'il n'y ait plus de comte de Chambord, c'était favorable pour De Gaulle, parce qu'il n'y avait plus que lui.
Il y avait le comte de...
Pas de concurrence.
Mais c'est très frappant, il y a une anecdote de Isabelle de Miripel qui... raconte dans ses souvenirs qu'elle débarque à Londres en 1940 et elle va voir De Gaulle et elle a grand peine évidemment à être introduite, mais elle dit à un aide de camp: je suis la petite nièce du maréchal de MacMahon. Et à ce moment-là, l'aide de camp va répéter ça à De Gaulle, il dit: ah, alors ça change tout, faites entrer cette jeune femme.
Elle était parente avec MacMahon.
Oui, c'était une petite nièce de MacMahon.
C'est drôle.
Mais c'est l'argument qui le détermine à la recevoir. Ouais.
C'est l'histoire, ça.
Oui.
C'est le respect de l'histoire.
C'est le respect de l'histoire. Mais et aussi de l'idée d'un pouvoir exécutif fort et indépendant, ce qui était en quelque sorte MacMahon dans le contexte, même si c'est rétrospectif de l'époque.
Oui, mais cela dit, c'est pas aimable de faire le rapprochement.
On a beaucoup médit de ce. C'est l'impression.